France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Isabel García Sanz, je le dis avec l'accent espagnol. Je suis née à Madrid, la fecha, j'ai pas de complexe, un 29 juin 1934. Et je suis soprano lyrique.
Quand vous êtes revenue à Séville, vous avez évoqué la période de la guerre, Isabel García Sanz, où vous êtes donc séparée de vos parents, vous allez les retrouver, vous allez vous apprivoiser petit à petit et vous faire votre place finalement en rentrant auprès de vos parents, apprivoiser votre petite sœur
bien
aussi,
sûr.
Qui est née. C'est quand même un moment de changement politique très fort en Espagne.
En fou.
Les conséquences du franquisme sur votre famille, sur le quotidien, sur vos souvenirs.
Aucun problème. On a eu, je vous assure, parce qu'on parle de ces temps, du franquisme et tout ça, aucun problème. J'ai eu le conservatoire, en plus j'ai eu des bourses, j'étais boursière parce que j'étais très forte. J'ai pu sortir d'Espagne, on m'a donné tout de suite le passeport. Aucun problème. Non, on ne se mêlait pas de politique, on vivait normalement, ça n'a rien. La post-guerre était très, très dure, parce qu'évidemment on n'avait pas grand-chose à manger. Mais au conservatoire, on nous prenait les meilleurs pour fêter à la Granja le 18 juillet, qui est la fête nationale, avec Franco, sa femme et tout. On a chanté avec tout Lola Flores, Carmen Sevilla, Luis Mariano est venu, on a chanté ensemble le duo des Comtes de Luxembourg, j'ai chanté les Visidartes, j'ai chanté des choses. Mais oui, tous les meilleurs, les premiers prix des conservatoires, on nous appelait. C'est Poudrier que vous voyez là, c'est lui qui m'a fait. C'est Poudrier, oui. Ça aussi, j'ai un collier de perles, on nous offrait des choses, des très 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 belles choses, des très belles choses. Donc, aucun problème.
Si on termine de brosser un petit peu le paysage de cette enfance, il y a quand même évidemment des traditions aussi qui sont très importantes. Moi, je ne les connais pas, mais pour les avoir lues ou en avoir entendu parler, la Semaine Sainte à Séville, ça a l'air d'être quelque chose d'extraordinaire. Et puis les ferias, c'est comment? C'est des souvenirs d'enfance, ça pour
attendez,
vous aussi?
Attendez, c'est un souvenir qui sera toujours dans mon cœur et je préfère ne pas y penser parce que je pleure. Écoutez, si. On restait toute la nuit, papa louait des chaises parce qu'il sortait les passos del Cristo del Gran Poder, ou la Vierge de la Macarena, ou de Triana, et tout d'un coup, d'un balcon, une saeta. Ah, mais c'est quelque chose de... Quelqu'un qui te chantait du balcon, j'ai jamais oublié. C'est un chant, les gens des balcons, hein, qui sortaient. Et je me souviens que Maurice Oana, j'ai fait beaucoup de créations, c'était un grand ami, il disait, moi, il faut que j'aille à Séville. Parce que pour lui, il me disait, je pleure quand j'écoute la saeta. Mais c'est un moment unique. Et puis la feria. À la feria, j'allais parce que je danse très bien. Papa m'a pris avec le meilleur professeur à 12 ans, avec Realito, pour apprendre las sevillanas et las alegrías et tout ça. Et
Et la manzanilla?
Si, on boit de la manzanilla, mais je n'avais pas beaucoup de droits à 12 ans et 13 ans, ou être 14 ans et 15 ans. Non, je n'avais pas beaucoup de droits. Je buvais une petite goutte. Papa me disait, bois, mais une goutte, hein? Okay. Parce que la manzanilla, quand vous prenez une coupe, ça, c'est très fort. Il y a beaucoup d'alcool. Mais c'était formidable parce qu'on avait des gitanes, qu'on appelle des gitanes, là. Et puis j'avais un ami qui avait un cheval et j'ai monté à la groupe derrière. Avec lui. Ah oui, oui, oui. Et j'ai dansé pour toute la nuit. En plus, j'ai dansé avec tout, avec Carmen Sevilla, Lola Flores, tous les gens qui étaient à la fête. Il y avait ma sœur, quand on va quelque part, on se met à danser, toutes les deux. Alors vous voyez, ça, ce sont les restes qui nous restent d'Andalousie. Mais moi, quand je pense à Sevilla, je me demande, qu'est-ce que je fais là?
Vous aimeriez y retourner?
Ah, parce que c'est un endroit, c'est une ville magique. Ah, c'est une ville extraordinaire. En plus, des gens d'une gentillesse, rien n'est difficile chez eux. Tout est facile, même si c'est difficile. Ils sont accueillants et ils sont en plus très, très... On vous regarde et on vous sourit. Moi, quand je souris, parce que je suis très souriante, il y a des gens qui doivent penser que je suis un peu malade. Parce qu'on ne sourit pas beaucoup. Il y a des dames qui me regardent avec l'air comme ça. Ah, bon, d'accord, très bien.
Et finalement, vous êtes tombée amoureuse de Paris aussi, alors vous êtes un peu tiraillée, vous aimeriez être à la fois à Séville et à Paris.
Je ne quitterai jamais Paris. J'y suis vraiment, mais vraiment, le coup des foudres. Paris, quand je suis passée pour la bourse pour Vienne, je suis arrivée en couchette le matin. Il y avait des amis qui m'attendaient à la gare d'Austerlitz, et on est allé à la gare du Nord parce que je prenais mon train pour aller à Vienne après. Laissé tous mes bagages, ils m'ont montré Paris. Et on est allé à Saint-Germain-des-Prés, ils voulaient me montrer les plus, tu vois, les cafés des Flores, tout ce qu'il y a là. Et puis on est allé à Saint-Sulpice. Il faisait un temps, c'était en septembre, comme à Paris en septembre, quand il y a les soleils, c'est magnifique. Je suis rentrée à l'église, il y avait une vierge qui est toujours là. J'ai mis un cierge et j'ai dit, faites qu'un jour je vienne habiter dans cette ville. 7 ans après, jour pour jour, puisque je suis revenue de Barcelone après mon premier mariage, fin septembre pour les répétitions de l'Opéra de Rennes, jour pour jour, j'étais là, 7 ans après.
Protégée.
Protégée, exactement. Tout ce que je demande, quelqu'un m'a dit, tu dois avoir un piston là-haut, parce qu'à chaque fois que tu demandes quelque chose, tu l'obtiens. C'est pistonné.
La religion, c'est quelque chose qui vous a construite. Oui. Et c'est quelque chose qui est toujours aujourd'hui
parce que
important.
Je vais vous dire, la religion, c'est très personnel et ça dépend des croyances qu'on a. Papa était un homme qui n'aimait pas le clergé, mais qui était très croyant. Et c'est lui qui nous a appris à prier. Or, je suis d'origine séfarade. Les maranes, qu'on appelait à l'époque, mais catholiques. Il m'a acheté papa à Séville, chez les filles de Christ Roi, dont ma sœur aussi, Christ Rey. Et là, évidemment, j'étais les bonnes sœurs, j'allais tous les jours, j'étais secrétaire d'Action catholique. Quand j'ai fait les choses, je les fais à fond. J'allais les rosaires tous les soirs, j'allais à la messe, la communion, très bien. C'est une chose qui m'a maintenue, même si je n'avais plus à la messe. J'en avais marre. Il y avait un moment où j'ai dit basta. Basta, j'ai beaucoup donné, mais la croyance, c'est la croyance de mon père. C'est-à-dire que je sais que j'ai quelqu'un qui m'écoute à un moment donné, et il m'écoute, parce que j'y crois beaucoup. J'ai pris beaucoup pour les autres, j'ai pris pour tout le monde, pour tous mes amis. Et je trouve que c'est un fond, n'importe quelle religion qu'on puisse avoir, parce que j'ai des amis bouddhistes, j'ai des amis qui n'y croient pas du tout, mais c'est leur problème, moi ça me regarde pas. Moi, je ne me mêle jamais de la vie des autres. C'est une chose que papa me l'a dit. Mind your own business. Toujours. Ne donne jamais des conseils. Jamais. Parce que tu ne connais pas. Tu ne peux pas être à la place des autres. Comme pour les vaccins. Qui n'aime pas se vacciner, qui ne se vaccine pas. Qui fait ce qu'ils veulent. On est libre de faire ce qu'on veut. On est libre de croire ou ne pas croire.
d'aimer la musique ou la détester. Il y a des gens qui détestent la musique, hein, qui ne peuvent pas, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est ennuyeux, c'est... tu t'ennuies pas d'étendre des musiques. Alors, on m'a posé la question, tu pourrais pas mener une autre vie que la vie que tu mènes avec tes partitions, parce que j'avais une partition où je devais les apprendre par cœur, puisqu'il y avait des répétitions en septembre, donc... Pour rien au monde, pour toute la fortune du monde, j'ai laissé la musique. C'est comme dans le métier. C'est pas moi toute seule à qui arrive qu'on nous demande après un spectacle. Madame, c'est formidable. À part ça, qu'est-ce que vous faites? À part ça, qu'est-ce que vous faites? Et c'est un travail monstrueux. Parce que quand vous chantez dans des langues différentes, les Russes, j'ai appris Onegin. Pour Strasbourg, je devais l'apprendre en 3 mois. Donc j'ai appris la phonétique russe. Je peux le lire. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je suis allée voir Irène Aitoff et des professeurs des Russes avec lesquels ils m'ont dit, j'allais chanter. Il faut mémoriser tout un opéra. Quand on dit, ah, comment vous faites pour mémoriser tout ça? J'ai dit, mon travail, c'est du travail. Il n'y a que ça. 100% travail. Pour les pianistes, violinistes, violoncellistes, tout le monde doit travailler.
Debajo de la hoja de la verbena, debajo de la hoja, debajo de la hoja de la verbena, tengo a mi amante malo, Jesús, qué pena. Debajo de la hoja de la verbena, tengo a mi amante mal y no puedo ir. Debajo de la hoja del perejil.
Isabelle Garcissens, on a passé cette petite enfance avec vous, on était à Séville, puis ensuite voilà, on a compris un peu le contexte familial et cet amour de la musique qui est déjà dans la famille de votre père. Ce virus que vous allez avoir, vous avez quasiment chanté avant de parler. Et puis à un moment arrive la nécessité d'aller à Madrid pour rentrer au conservatoire. Vous êtes adolescente, vous quittez vos parents.
C'est papa qui dit à maman, et on a pris le train pour aller à Madrid. On logeait chez ma tante, parce qu'elle avait un grand appartement à Madrid. Et je suis allée au conservatoire pour les pianos, l'harmonie, tout le reste. Mais mon professeur était privé.
Votre professeur, c'est
Ángeles Otein, qui était une très, très grande professeure. J'allais chez elle. Ah, parce qu'elle a dit à maman, écoutez, vous me laissez votre fille, je vous dirai si je peux faire quelque chose. Elle m'a dit oui, parce que nous vivons à Séville. Et on ne peut pas se séparer d'elle continuellement. Je peux la laisser ici, mais vous me la laissez une semaine et je vous dirai.
Une semaine d'observation.
Oui, pour savoir si j'étais capable de comprendre vite. À 14 ans, j'avais une voix d'estanton en bas, étant donné que je n'avais pas de voix de tête. J'ai chanté tout en poitrine, puisque quand on chante, j'ai chanté tout comme ça, en voix de poitrine. Et quand maman m'a amené et j'ai fait à mon professeur, je faisais la tyrolienne, je ne savais pas faire la voix des têtes. Elle m'a envoyé voir un otorino qui me dit, non, tes cordes sont des très belles, des sopranos lyriques. Tu es bien tombée parce que tu es tombée sur un professeur formidable. Qu'est-ce qu'on a bossé? C'était les professeurs de Pilar Lorengar aussi. Elle chantait tellement bien.
Elle est plus âgée que vous, Pilar Lorengar.
Oui, oui, j'avais 16 ans, elle avait 21. Elle est partie à Berlin après, où elle a été. Je l'écoutais. Je pleurais parfois. Et je disais à mon professeur, j'ai envie d'avoir 30 ans. Je dis, mais monsieur, ben je n'arrive pas. Si, tu arriveras. Mais il te faut du temps, s'il te plaît, calme-toi, parce qu'on veut aller, très vite. Puis on m'a dit, mon professeur m'a dit, tu devrais aller au conservatoire aussi pour le piano, l'harmonie, et tout l'art dramatique et tout ça. La phonétique internationale aussi. Et alors là, je suis allée au conservatoire, moi-même, je me suis inscrite, voilà, très bien. J'ai eu les meilleures notes, entre nous, soit dit, tout très bien, parce que j'étais très forte en harmonie. J'avais des camarades qui m'ont dit, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit, viens à la maison ce soir. C'était vraiment des moments magiques.
Comment elle était, cette Ángeles Otein?
C'est une femme qui, à cause, parce qu'il était très petite et très gosse, avait abandonné le métier très tôt. Il s'est mis à enseigner. C'était formidable. Elle était un très, très bon professeur.
Comment étaient ses leçons? Qu'est-ce qu'elle vous a appris? Elle-même était élève d'un grand ténor italien. Donc, c'était quoi? La technique italienne?
Oui, elle avait été l'élève de la Marchesi. Donc, c'était sa technique de la Marchesi. C'est-à-dire qu'elle m'a appris d'abord à respirer. Et puis, comme il faut chanter à la verticale. Et puis, ouvrir bien la gorge, ouvrir toi. Et puis, savoir vocaliser rapidement, ça c'est une chose que tout de suite, que je n'avais pas vocalisé, mais une semaine après, je savais le faire. Mais 6 mois après, j'avais ma voix de tête, et j'ai commencé déjà à chanter avec la pianiste, et 3 ans après, j'ai eu mon prix. Mais j'ai beaucoup travaillé. Et c'est drôle, parce qu'elle est venue après m'écouter au Real, quand j'ai fait l'heure espagnole. Il y avait Michel Sénéchal, il y avait Hugues Quénaud, il y avait Robert Massard aussi qui faisait le muletier. Elle est venue m'écouter. Il me disait, oh là là, Isabelita, Isabelita, elle m'appelait Isabelita. Quel chemin tu as fait, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit oui, mais je vous dois mon chemin, je vous le dois à vous. Et voilà, j'ai pris pour elle tous les soirs parce que je me souviens d'elle très bien.
Quand vous découvrez cette voix de tête pour la première fois, quelle est votre impression? Est-ce que vous vous souvenez? Parce que c'est comme de découvrir un continent. On a toujours chanté en voix de poitrine, quelque chose de très terrien, de très ancré. Puis tout d'un coup, on découvre qu'on peut s'envoler ailleurs.
Mais écoutez, il y avait une fille, pendant que je faisais mes études à Séville, j'écoutais la radio en même temps, c'est que ça mettait un rogne au papa. Mais comment est-ce que tu peux étudier et écouter la radio? Il y avait une fille qui s'appelait Maria de los Angeles Morales, qui avait chanté à Aix-en-Provence, « Ti surgé la fait venir ». Très jeune, quand j'ai entendu à la radio la voix de Maria de los Angeles, j'ai dit « C'est ça que je vais faire ». J'ai dit « Mais comment faire ?» Je ne savais pas, parce que je ne comprenais pas comment on peut avoir cette voix comme ça. Et c'est pour ça que quand mon professeur m'a dit comment il fallait le faire, pour moi c'est une découverte, parce qu'il m'a fait découvrir son par son, comme quoi les sons... Passer de là. Et ça, quand elle m'a appris ça, moi j'ai dit, ah oui, ça y est, on est arrivé à une quinte, après une sixte, après tout ça, petit à petit. Et puis après, ça y est.
C'est quelque chose que vous allez garder toute la vie, finalement?
Toute ma vie. Je n'ai jamais pu l'oublier, parce que Pablo Casals l'a fait venir à Puerto Rico. Et il m'a laissé tomber quand j'avais 21 ans. Alors je ne pouvais plus consulter. Et j'ai dit, bon, il faut que je garde tout ce qu'elle m'a appris. Je n'oublie pas tout ce qu'elle me disait, tout ce qu'elle me conseillait, tout ça. Parce qu'il fallait que je me débrouille avec. Hein. Et par exemple, la musique du XIIe siècle dont vous parlez l'autre jour. Moi, j'aime beaucoup Montserrat. Quand j'ai entendu le plein chant cantuliano, que llamamos, à Montserrat, il y a la monodie du XIIe siècle que j'ai entendue par... Tous les enfants qui chantent là, qui commencent tout à cappella. Ce qui fait que je me suis dit, ça, il faut que je le chante et que j'apprenne à le faire. Et j'ai ouvert mes récitals avec ça. Il faut se lancer, hein, parce que quand on est le premier où tu as le cœur qui va, que tu sors pour ta, tous les gens qui t'écoutent comme ça en disant, qu'est-ce qu'elle chante là, qu'est-ce que ça veut dire ça. Et mais j'ai commencé par ça. Que vraiment, c'était avec plus d'hermachère qui m'accompagnait du reste. Voilà. Mais c'est adapter la technique au style. C'est pour ça qu'on peut interpréter là jusqu'à la musique contemporaine où il ne faut pas vibrer, et dans la musique baroque non plus. Et c'est une question de technique, de souffle. tout se base sur la technique. Comme disait Rubinstein, pour bien interpréter, il faut trois choses. Technique, technique et technique. Je l'ai entendu le dire à la télévision, il y a quelques années. Mais oui.
Il y a une génération absolument extraordinaire dont vous faites partie, de chanteurs espagnols, quand même. La Teresa Berganza, la Pilar Lorenga, vous-même,
Victoria Sánchez.
Non, mais il y en a plein. Je veux dire, Alfredo Kraus aussi, ah, les hommes, évidemment, Aragal. Beaucoup. Comment on explique cette école-là, ce chant espagnol? Parce que les générations d'après, c'est plus aussi vrai. Il y a vraiment eu une forme d'âge d'or.
Oui, et ça continue. Il y a une très bonne école en Espagne des chants. Mais je trouve, maintenant je m'adresse aux Français. Il y a maintenant toute une génération de chanteurs français qui sont formidables. Ils chantent très bien. Ils connaissent la musique, ils sont des grands interprètes. Ils ne font que de la musique.
Mais vous, votre école qui vous a faite.
Oui, c'est une école à l'italienne. C'est une école à l'italienne parce qu'ils chantent tous, on chante tous Cavallé. C'était ça, hein. C'était aussi de la même chose. On a chanté ensemble Les Noces de Figaro. On était des grands amis en plus toutes les deux. Et bon, avec Teresa aussi, on a chanté la Clemence Titus à Madrid au Real. Donc, on était des grands amis. On est toujours avec Teresa. Je suis toujours des grands amis parce que notre Montserrat est parti malheureusement. Et Alfredo Kraus, je le connaissais très bien. Placido Domingo, je le connaissais très bien. Et ça, vraiment, c'est un musicien hors pair, Placido, parce qu'il dirige, je ne sais pas comment il arrive. Il dirige, il chantait en même temps, il dirigeait en même temps les orchestres, il s'est déplacé partout. Ouais. Bon, voilà. Carreras aussi, qui a une voix magnifique. Et j'ai des chanteuses avec lesquelles j'ai chanté mon premier concert à Valladolid, les Stabat Mater de Rossini. Et vraiment, j'avais Inés Rivadeneira, qui était un mezzo-soprano extraordinaire, et Elias Toca, qui était un ténor, qui était au conservatoire, qui était très bien. Et on a fait un très bon Stabat Mater de Rossini.
Come on!
deux voix d'or espagnoles, Montserrat Caballé et Placido Domingo, ici avec l'orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden, dirigé par Giulini, qui interprétait un extrait de Don Carlo de Verdi. C'est ainsi que se referme le deuxième épisode des Grands Entretiens avec Isabelle Garcisens. Réalisation Gilles Blanchard, prise de son Raymond Alboui, mixage Pierrick Charles, attaché de production Flora Sternadel. Suite de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.